Alors, on va parler de cet autre sujet qui fait l'actualité ce mercredi. Ce russophone interpellé lundi dans le Val-d'Oise, il était en possession d'explosifs. C'est un homme de 26 ans, un russo-ukrainien originaire du Donbass russophone. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste. La DGSI a été saisie. On va tout de suite aller retrouver David Hunal à Roissy, puisque c'est là qu'il a été interpellé. Racontez-nous, David, ce qui s'est passé. C'est donc ce lundi.
Oui, ce que l'on sait, c'est que lundi, aux alentours de 16h30, les gendarmes sont sollicités par les services de secours pour venir dans un hôtel. Cet hôtel qui se trouve juste derrière moi, ils y trouvent un homme qui est gravement brûlé, aux deux bras et au visage. Il est transporté à l'hôpital. En parallèle, l'hôtel de plus de 200 chambres est évacué pour sécuriser les occupants et puis pour procéder aux premières constatations. Écoutez cette restauratrice que nous avons rencontrée tout à l'heure. Elle a assisté au dispositif qui était là. Son restaurant est juste en face.
Vers 17h, je revenais de la crèche, j'ai récupéré ma fille et j'ai vu pas mal de monde, des pompiers, des gendarmes. Ils ont bloqué toute la route et on a appris qu'il y avait un petit incident à l'hôtel en face. Il y avait beaucoup de monde et d'alarmes. Il y avait l'alarme qui retentissait. Je vous avouerai que ça fait un peu flipper en se disant, en plus j'ai une petite fille de 3 ans, ça fait un peu flipper. Ouais. Donc on se sent un petit peu en insécurité partout.
Les enquêteurs procèdent donc aux premières investigations lundi en fin d'après-midi. Et de ces premières constatations, ils décèlent la confection d'un engin explosif et incendiaire. La section de recherche de Versailles sera ensuite sur les lieux. Et puis en début de soirée, aux alentours de 21h, le mis en cause est placé en garde à vue à l'issue de ses soins.
Merci beaucoup David, avec Audrey Allos derrière la caméra. On va en parler en plateau avec nos invités. On est avec Paul Gogo, journaliste correspondant à Moscou. Vous êtes l'auteur de Opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass, aux éditions du Rocher. Bienvenue à vous à nouveau, Paul. On est avec Jérôme Poirot, consultant renseignement pour BFM TV. Bonsoir Jérôme, avec Guillaume Fard, toujours là, tout comme Maxime Brandstetter du service police-justice. Bonsoir à nouveau à tous les deux. Donc, ce qui s'est passé lundi, les gendarmes sont sollicités par les secours, c'est bien ça Maxime. Ils vont vers un hôtel de Roissy. Ils découvrent un homme gravement brûlé au visage. Et au bras. Il est transporté à l'hôpital. Ils mènent leur enquête dans l'hôtel. Et là, ils découvrent de quoi fabriquer des explosifs, c'est ça ?
Ils découvrent même un atelier pour fabriquer des engins explosifs avec différents éléments, mais aussi des produits. Ils découvrent des engins explosifs et incendiaires artisanaux qui sont préparés pour pouvoir être allumés grâce à des téléphones portables qui peuvent servir de détonateurs. Et ils découvrent même que l'un de ces engins explosifs a visiblement explosé, ce qui a causé les blessures de l'homme qui est gravement brûlé au visage et au bras. Et ils retrouvent aussi des passeports dans cet hôtel à proximité de Roissy.
Lui a été placé en garde à vue.
Lui, il est transporté à l'hôpital en parallèle. Et dès qu'il a reçu les premiers soins, effectivement, il est placé en garde à vue. Au début, c'est la section de recherche des gendarmes de Versailles qui gère cette garde à vue. Mais assez vite, elle se dessaisit au profit de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et du Parquet National Antiterroriste, qui très vite vont voir qu'ils ont affaire à un homme de nationalité ukrainienne et russe, qui est originaire du Donbass, mais du côté russophone du Donbass. Un homme jeune qui a donc 26 ans.
On a une image, je crois, à montrer, Maxime, du dispositif qu'il possédait.
Je vous l'ai dit, il retrouve un atelier de confection d'engins explosifs et c'est des engins explosifs comme celui-ci. Vous pouvez voir cette photo envoyée par mon collègue Mathias Tesson. C'est l'un des engins explosifs que visiblement il était en train de préparer. Alors on voit un câble en sortir. C'est parfois par ce câble qu'on peut le relier soit à un téléphone, soit à un timer qui permet de déclencher l'allumage et donc de le faire exploser. Et c'est l'un de ces engins qui visiblement a explosé au visage de l'homme alors même qu'il le préparait, qui a occasionné sa blessure et qui, par là même, on peut le dire, a occasionné le fait qu'il soit interpellé.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette arme-là ? Est-ce que Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je ne m'y connais pas du tout, mais ça vous semble artisanal ?
Oui, c'est très rudimentaire. Ça peut se confectionner à partir de produits qui, généralement, sont en vente libre. Il en confectionnait plusieurs. Et du coup, les questions qui se posent, c'est est-ce que c'était pour lui seul ou est-ce qu'il fallait qu'il approvisionne d'autres personnes ? Vous voyez que ça change quand même complètement la donne. Pourquoi est-ce qu'il était là à en confectionner autant, en tout cas plusieurs ? Et qui lui a donné, le cas échéant, si tant est qu'il y ait un commanditaire, l'ordre de le faire. Alors, en fait, est-ce qu'il est le maillon d'une chaîne et quelles sont les deux extrémités de cette chaîne ? Est-ce qu'il y a une extrémité chez un commanditaire qui serait du côté de la Russie, puisque on nous explique que ce serait une de ces deux nationalités ? Et est-ce qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des exécutants qui auraient dû récupérer ce que lui avait confectionné ? On peut très bien imaginer que c'était peut-être pas lui qui allait passer à l'acte, mais qu'il était l'artificier de quelque chose. On a déjà vu ça dans certaines affaires. Donc, on a un maillon et reste à reconstituer la chaîne.
Que sait-on sur lui ? 26 ans, originaire du Donbass, russophone.
Oui.
C'est à peu près tout.
C'est à peu près tout ce qu'on sait en l'état des informations qu'a le service police-justice de BFM TV. 26 ans, on sait qu'il a visiblement des passeports qui sont en cours d'analyse. D'après les informations qui nous sont remontées, au tout début, il se justifiait pas forcément. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il a dit après en garde à vue ou pas. Pour l'instant, on a assez peu de choses sur lui.
Est-ce qu'on voit le type de dégâts que peut faire ce genre d'explosif ou c'est trop difficile à estimer ?
Ça dépend où ils sont utilisés, quelle est la cible. Si c'est au milieu d'une foule, vous faites des morts et des blessés. Ça dépend de la composition de la foule, de sa compacité. Si ce sont des cibles qui sont matérielles pour détruire quelque chose, incendier quelque chose, bon, ça dépend, là, on ne voit pas très bien quel est le poids. Mais enfin, ça suffit. Et là, on en voit une des charges, manifestement. Il préparait différents types d'engins explosifs. Donc, ce n'était pas anodin.
On est au-dessus de ce qu'on appelle une bombe agricole.
Ah oui, très, très nettement. Alors, on ne sait pas quel était le total du poids. Mais je peux vous raconter l'histoire en deux mots, sans risque de me tromper beaucoup. Hein. Donc, on a un Russe et Ukrainien qui arrive avec de faux passeports. Donc, il ne vient pas de Moscou ni du Donbass directement. Vraisemblablement, il venait d'arriver. Je suis à peu près persuadé qu'il a des complices qui lui ont livré tout le matériel qu'il a utilisé. On le voit mal avoir franchi des contrôles aéroportuaires avec ce genre de matériel. Donc, je pense qu'on peut faire l'hypothèse. Et on ne voit pas, il n'a pas l'air d'être francophone, on ne le voit pas aller faire des courses dans la zone de Roissy pour ça. Donc, il prépare des explosifs. Est-ce que lui-même, c'est vrai, c'est une bonne question, devait les utiliser ou est-ce qu'il devait les remettre à quelqu'un ? Ça semble être un artificier quand même pas très professionnel.
Amateur, donc, plutôt.
On peut faire l'hypothèse qu'il a été recruté par les services de renseignement russes, qu'il a été formé de manière assez sommaire. Je vais vous dire, moi j'en ai préparé des explosifs. Il se trouve dans une administration où ça lui arrive de faire ça. Donc on prend des mesures de sécurité, mais enfin personne n'a été blessé. Donc soit il était ivre, c'est possible.
Parce que là, il s'est blessé tout seul, voilà. Avec l'arme qui était,
enfin, les engins qui étaient. Et moi, je ferais plutôt l'hypothèse qu'il avait vocation à les utiliser lui et utiliser un des passeports qu'il avait pour repartir aussitôt. Parce qu'il y a un élément de calendrier qui est très important. Il a été arrêté lundi, donc il était en train de bricoler lundi. Et il se trouve que hier, mardi, sont arrivés en France beaucoup de chefs d'État et de gouvernement. Donc je ne dis pas que sa cible.
Dont Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
Je ne dis pas que sa cible, c'était eux. Enfin, à Roissy, s'il y avait eu un attentat, par exemple dans une aérogare ou dans un hall, alors que les médias du monde entier sont là, ça aurait eu un retentissement considérable.
Et on va évidemment parler du contexte très particulier avec tous les plus grands chefs d'État occidentaux rassemblés demain en Normandie pour le 80e anniversaire du débarquement allié. Mais pour en venir à son profil à lui, originaire du Donbass russophone, peut-être qu'on peut redire un mot, parce que ce n'est pas forcément évident pour les téléspectateurs qui nous regardent, sur le Donbass. Il y a une majorité de pro-russes dans le Donbass.
Oui, alors je suis par contre vigilant sur la partie russophone, parce que les russophones en Ukraine, on peut en trouver un peu partout. Et en plus, ce n'est pas la langue qui est parlée par les gens du Donbass qui fait en gros leur attachement à l'Ukraine ou à la Russie, quoi. En gros, tout le monde parle russe dans le Donbass. Certains soutiennent la Russie, certains soutiennent l'Ukraine. Dans le Donbass, en guerre depuis 2014, en fait, cette région, elle est coupée en deux par une ligne de front depuis 2014. Alors, on peut considérer que ce sont les mêmes gens qui vivent des deux côtés du front, mais ceux qui vivent côté occupé par la Russie font l'objet d'une russification intense depuis 2014. Et dans cette russification, il y a notamment l'attribution de passeports russes. C'est-à-dire que vous, quand vous vivez en zone occupée aujourd'hui, vous ne pouvez plus vivre sans passeport russe. Alors, est-ce que c'est un monsieur tout le monde qui a été trouvé dans le Donbass et qui, comme tout le monde, avait obtenu un passeport russe et c'est ce qui ferait qu'il aurait les deux nationalités, si c'est bien ces deux nationalités qu'il a? Tout est possible. Moi, ça m'intéresserait, en tout cas à titre personnel, beaucoup de savoir de quelle ville du Donbass, de quelle zone du Donbass il est originaire. Après, est-ce que effectivement, s'il est passé par plusieurs intermédiaires, s'il est passé par des pays tiers, ça n'explique pas forcément grand-chose sur l'action qu'il était en train de préparer. Mais en tout cas, c'est intéressant quand même de voir le profil qui, si on se dirige vers une opération russe, est utilisé parce que c'est un jeune homme. C'était aussi des jeunes hommes lorsqu'il y a eu des actes de sabotage au nord de Londres en mars dernier, à Barcelone aussi, avec des engins incendiaires aussi qui ont été utilisés pour mettre le feu à des entrepôts qui étaient liés à l'Ukraine. Et donc le symbole passe, c'est une sorte de terrorisme dans lequel il n'y a pas de mort civile. L'objectif, c'est de créer un symbole, de évidemment amener de la terreur aussi, et c'est la partie terrorisme de la chose. En tout cas, on n'est pas sur des bombes déposées dans des lieux publics pour l'instant qui ont pour objectif de faire beaucoup de morts civiles. La Russie semble être, quand même, si c'est la Russie qui est derrière tout ça, être dans une...
Ce qui n'est pas confirmé.
Être dans une situation qui consiste avant tout à nous rappeler qu'elle n'apprécie pas du tout le soutien qu'on apporte à l'Ukraine.
Mais là, on franchit un cap. On parlait hier, et d'ailleurs, je crois que c'était sur ce plateau qu'on parlait de ces cercueils, ces cinq cercueils qui avaient été déposés au pied de la Tour Eiffel. Et l'un de vous, Paul, je crois, et vous, Jérôme Poirot, vous disiez... La prochaine étape, ils n'hésiteront pas à mettre des explosifs. Là encore, on prend des pincettes. On ne sait pas si c'est les Russes derrière cette personne-là précisément, mais, mais c'est finalement, ça se réalise.
C'est une hypothèse, enfin une hypothèse sérieuse. Dans les deux cas, ce qui est très inquiétant, c'est que c'est passé sous les radars. C'est-à-dire que dans le cas des cercueils, les cercueils ont été déposés, même si les personnes qui ont fait ça ont été arrêtées très rapidement. Là, ce russe et ukrainien, il avait commencé à préparer des explosifs. Il n'a été neutralisé que parce qu'il s'est blessé lui-même. Alors, peut-être n'aurait-il pas pu aller jusqu'à la fin si c'est lui-même qui devait faire sauter les explosifs qu'il préparait. Mais le fait que ces deux opérations soient passées sur les radars, ça montre qu'elles ont été très bien préparées, même si je crois, dans le cas de Roissy, comme dans le cas des cercueils samedi matin au pied de la Tour Eiffel, les exécutants ne sont pas de grands professionnels. Et leur sort, je pense, n'intéresse pas beaucoup leurs commanditaires. Peut-être avec une nuance s'agissant de Roissy, puisqu'il avait plusieurs passeports, peut-être un de ses passeports aurait pu lui permettre de repartir rapidement et sans éveiller les soupçons. Donc ça, c'est, je crois, très inquiétant. Ça montre, à mon sens, qu'on est bien en présence d'actions qui sont conçues, planifié, organisé par des États, par les services de renseignement d'un État.
Vu le calendrier des informations qui nous parviennent, on peut penser que les enquêteurs ont une longueur d'avance sur nous. Heureusement, j'espère. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, peut-être qu'en regardant les caméras de vidéo de l'hôtel, en exploitant les téléphones éventuels ou l'ordinateur éventuel que cet homme aurait eu avec lui, ils ont déjà réussi à remonter peut-être le réseau et peut-être qu'on va apprendre des choses rapidement.
Oui, il y a une trajectoire géographique. Et puis il y a les services partenaires. Il ne faut surtout pas négliger les services partenaires. Si on émet l'hypothèse qu'il est arrivé en France récemment, il a traversé donc plusieurs pays, si ce n'est pas un vol qu'il a emprunté, et donc les services partenaires peuvent dire des choses. Dans un contexte, et Sami Sfaxi l'a rappelé tout à l'heure, où il y a très régulièrement... des services partenaires d'États voisins et amis et alliés qui nous disent, attention, les Russes pourraient, alors pas des attentats terroristes de masse, mais en tout cas recourir à des actions de sabotage sur des territoires plus à l'ouest.
Justement, vous évoquez la menace terroriste russe sur le territoire français. C'est le renseignement allemand qui a sonné l'alerte, notamment. Donné l'alerte aux Français. Samy, que contient cette note du renseignement allemand que vous avez pu consulter?
Oui, alors écoutez, ce sont nos confrères du Financial Times d'abord qui ont révélé l'existence de cette note du service de renseignement allemand. Dans cette note, il est écrit que le risque d'attentat russe sur le sol européen est très important, comme le disait Guillaume Fard à l'instant. Thomas Haldenwang, c'est le patron des services secrets allemands, eh bien, a averti ses homologues français, suédois et britanniques. Le risque d'actes de sabotage initiés par l'État russe s'est considérablement accru pour ces derniers mois. Il a également vraiment insisté, et c'est peut-être ça le plus inquiétant, sur l'imminence possible de plusieurs attaques sous la forme, je cite, de bombes d'incendie ou encore de cyberattaques. Ce même responsable allemand indique que le potentiel de dégâts humains et matériels peut être très élevé. Voilà, c'est ce qu'il déclarait en tout cas dans cette note des services de renseignement. D'ailleurs, l'OTAN a appelé les pays européens à redoubler de vigilance sur d'éventuelles opérations russes. Et d'ailleurs, ça a commencé, c'est ce qu'ils ont expliqué, avec ces deux exemples. Paul Gogo, vous le disiez tout à l'heure, cet incendie d'un entrepôt au Royaume-Uni qui stockait des armes à destination de l'Ukraine, mais également deux hommes interpellés en Allemagne pour sabotage d'une base américaine.
Merci Samy. Et là, effectivement, dans ce cas-là, la piste d'un sabotage fait partie des pistes possibles envers des armes à destination de l'Ukraine, par exemple.
Oui, enfin, ou des incendies spectaculaires. On en a vu, vous en parliez encore l'autre jour, en Pologne et ailleurs. Et puis, il y a eu aussi en Allemagne des tentatives d'action violente contre des bases américaines en Allemagne. Donc, il y a une volonté une volonté qui est documentée des Russes, du Kremlin, de mener toutes sortes d'opérations en Occident avec une cible qui est quand même particulière, c'est la France. On le voit dans toute la désinformation et la propagande en ligne. En Russie, il y a eu un virage ces derniers mois avec deux cibles prioritaires qui sont les Jeux Olympiques et qui sont le président de la République française, notamment en matière de désinformation. Et je disais encore tout à l'heure, il y a notamment une espèce de mini-série qu'on pourrait croire créée par Netflix, qui s'appelle Olympics Has Fallen, en référence à ce film de 2013, La chute de la Maison Blanche, dont le titre en anglais est Olympus Has Fallen. On voit, et c'est la voix d'un grand acteur américain qui a été utilisé à travers l'intelligence artificielle. Et donc, ça montre en fait que les Jeux Olympiques sont une catastrophe. Et les Russes peuvent avoir des cibles à travers des incendies criminels qui ne visent que des dégâts matériels. Enfin, on ne peut pas exclure qu'à un moment donné, ils souhaitent qu'il y ait aussi des morts et des blessés dans un certain nombre de ces opérations.
Parce que c'est ça qui interpelle dans la note du renseignement allemand. On n'est pas simplement dans l'ingérence et petits coups de pression qui sont déjà déstabilisants comme les cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel. On parle de la possibilité d'utiliser des bombes, de causer des incendies, des éléments qui deviennent potentiellement mortels.
Moi, pour l'instant, j'ai du mal à concevoir des attentats qui auraient pour objectif de tuer du monde, parce que, en fait, les sabotages, les actes. Non, mais je dis pas que ça peut pas arriver. C'est juste, c'est effectivement, faut l'admettre, faut se l'imaginer, faut le concevoir. C'est juste que ça fait des années, en fait, que les actes de sabotage, ils ont lieu en Europe de l'Est. Des entrepôts de munitions, des hangars, tout ce qui est lié à la guerre. Et en plus, je crois savoir qu'à chaque fois, ce ne sont pas des gens qui sont payés pour le faire, ce sont vraiment les services de renseignement, le GRU notamment, le service de renseignement militaire. Qui eux vont sur le terrain, font les actes de sabotage. Ils ont aussi généralement plusieurs passeports, donc ils arrivent à ressortir du pays assez rapidement. Et donc ça, en Europe de l'Est, on y est habitué à tout ça. C'est déjà une surprise, même pour moi, correspondant à Moscou, de voir que ça arrive en France, d'autant plus une surprise que pour l'instant, nous, correspondant à Moscou, la réaction des autorités à tout ce qu'Emmanuel Macron dit, c'est qu'ils essaient de communiquer avec nous comme jamais. Moi, je trouve ça incroyable. Hein. On a un confrère ce soir, responsable de l'AFP, qui vient de passer une heure et demie avec d'autres confrères, à rencontrer Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, alors qu'il nous faisait la tête depuis le Covid, en gros. Et de manière générale, moi, j'étais sur la place Rouge le 9 mai à quelques mètres de Vladimir Poutine. Depuis qu'Emmanuel Macron parle d'envoyer des hommes en Ukraine, eh bien, les Russes communiquent avec nous.
Comment vous l'interprétez, ça ?
Alors, on est correspondant à Moscou. Je pense qu'ils ont une volonté de nous influencer. Ils se disent que c'est le moment de faire passer leur message. Et c'est vrai que nous, c'est toujours la difficulté de pas être des relais de la propagande russe hein, quand on vit à Moscou. Mais visiblement, on est encore utile pour eux et ils ont envie de plus que jamais de montrer leur position, d'imposer leur narratif, parce que pour eux, les Russes sont incompris en Europe. Et là, à l'occasion de ces cérémonies, d'ailleurs du 6 juin, je pense qu'eux le vivent comme ça, parce qu'eux, ils ont réécrit l'histoire ces dernières années en Russie et ils se disent que c'est nous qui réécrivons l'histoire. Et qu'en plus, on ne sait pas la célébrer, cette histoire, on ne sait pas le rendre hommage à ceux qui sont morts durant cette Seconde Guerre mondiale. Et donc, les Russes vivent comme leur absence pour les Jeux Olympiques, ils vivent presque comme une humiliation le fait de ne pas être présent.
De ne pas être invité pour les commémorations du débarquement.
Donc, il y a quelque part une volonté de vengeance derrière qui apparaît automatiquement.
Oui, on l'a vu. Quand ils sont évincés d'un événement où ils pensent avoir leur place, ils se vengent. On l'a vu en 1984 quand ils n'ont pas pu participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles aux États-Unis. Alors, il n'y a pas eu de mort, mais par exemple, dans la propagande soviétique, tournée notamment vers les pays du Sud, africains et asiatiques, il y avait toutes sortes de rumeurs qu'ils faisaient courir, disant que des suprémacistes blancs américains s'en prendraient, voudraient tuer des athlètes qui ne seraient pas blancs pendant les Jeux de Los Angeles. Donc là, le fait que la Russie ne soit pas invitée aux cérémonies de commémoration du 6 juin, c'est manifestement, enfin moi j'y vois un lien vraisemblablement.
Avec ce qui s'est passé avec, là cette semaine.
Oui, c'était lundi, ce type est arrivé lundi, il s'est blessé lundi. S'il avait bien fait son travail lundi, sans doute à partir de mardi, ce qu'il avait préparé pouvait être utilisé à Roissy, à Paris.
Et potentiellement, en guise de vengeance, pour avoir été écarté des commémorations.
Oui, et puis pour saboter d'une certaine manière. Enfin, et qu'il puisse y avoir aussi de l'information, mais aussi de la propagande dans le monde entier, se focalisant sur, heureusement, cet événement qui ne s'est pas passé, mais qui aurait pu se passer soit aujourd'hui, le 5, soit demain, le 6, par exemple.
Vladimir Poutine, vous dites qu'il, paradoxalement, depuis que ça se tend un peu plus entre la France et la Russie, communique beaucoup plus avec les journalistes. Je voulais qu'on l'écoute, il a pris la parole ce soir, Vladimir Poutine.
Avec notre collègue de l'AFP, justement, qui était présent.
Il était présent, mais alors le ton n'est pas tout à fait à la rigolade, c'est une menace de plus envers les Occidentaux. On écoute le patron du Kremlin.
Fournir des armes à une zone de conflit est toujours une mauvaise chose. Surtout si elle est liée au fait que les fournisseurs ne se contentent pas de fournir des armes, mais qu'ils les contrôlent. Il s'agit là d'une mesure très grave et très dangereuse.
Voilà, les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine sont très dangereuses. Alors qu'on rappelle le contexte, certains pays, dont les États-Unis, ont récemment autorisé Kiev à frapper la Russie. Là, on ne parle plus de l'Ukraine, mais la Russie, à condition que ce soit proche de la frontière ukrainienne. Voilà, à nouveau des menaces de Vladimir Poutine. On est dans un contexte où on sent que ça monte un peu d'un cran quand même.
Il y a une nécessité en ce moment pour le Kremlin de formuler des lignes rouges. Parce qu'en fait, les débats, nous, on en parle ici, on en discute. Mais en Russie, c'est vraiment, on en parle toute la journée. C'est une préoccupation. Quand on parle d'envoyer des hommes en Ukraine, ça les rend fous. Quand on parle d'autoriser des tirs d'artillerie, de missiles sur le territoire russe, ça les rend fous. Quand on leur dit qu'ils ne participeront pas aux Jeux Olympiques avec leur drapeau et leurs athlètes, ça les rend fous. Et en plus, ils se sont humiliés. Et même chose pour les cérémonies du 6 juin. Donc là, il y a un ensemble qui fait que les débats en Russie en ce moment ramènent quand même beaucoup les choses vers Paris, vers la France.
Il y a une chose qui les rend pas fous, c'est de mener leur projet barbare et génocidaire en Ukraine. Ça, ils sont tout à fait à l'aise avec ça.
Depuis 2022.
Le contexte, justement, rappelons-le, Christophe, effectivement, tous les dirigeants occidentaux présents demain, dont Volodymyr Zelensky d'ailleurs, présent lui à cette cérémonie de commémoration du débarquement. Effectivement, on ne peut s'empêcher de faire le lien aussi.
D'une guerre l'autre, il va de soi que Emmanuel Macron et les autres participants à ces cérémonies essayent d'éclairer les conflits d'aujourd'hui à la lueur des conflits d'hier. Ce qui, historiquement, est un petit peu osé, parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Ukrainiens n'étaient pas exactement dans le camp qui essayait de détruire les nazis. Ils avaient tellement souffert de l'oppression soviétique qu'ils avaient plutôt accueilli l'armée allemande en libérateur. C'est une ambiguïté historique qu'il faudra lever si l'Ukraine veut continuer à s'approcher de l'Europe. Mais enfin, il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont un pays agressé, envahi, et donc ils se retrouvent flattés, associés à cette commémoration du D-Day, c'est-à-dire le triomphe des démocraties sur la dictature. Au-delà de ça, il y a aussi un autre contexte, qui est le contexte des élections européennes. Et qu'est-ce qu'on voit en Europe? On voit une poussée de mouvements nationalistes, populistes, qui ont des tas de divergences, mais qui ont en commun d'avoir été critiques dans l'attitude occidentale vis-à-vis de la Russie. Voire parfois avoir été des soutiens avérés de Poutine, au moins jusqu'en avril, en février 2022. Donc c'est ça aussi que Emmanuel Macron et les autres vont essayer de jouer demain. C'est de tendre un miroir aux électeurs de dimanche en leur disant « Attention, regardez ce qu'était le passé, faites attention à ne pas emmener l'Europe vers un destin qui lui ressemble ».
Maxime Brandstetter, peut-être qu'on peut refaire le point pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Ce russophone donc interpellé cette semaine, lundi précisément, dans le Val d'Oise à Roissy, en possession d'explosifs. Que sait-on sur cette affaire?
On sait que c'est les secours qui commencent par prévenir la gendarmerie parce qu'ils ont retrouvé un homme gravement brûlé au visage et au bras dans un hôtel à Roissy en France. Les secours qui appellent les gendarmes et les gendarmes qui retrouvent sur place tout un atelier et des produits pour pouvoir concevoir des engins explosifs. Ils en retrouvent d'ailleurs certains, on en a des exemples en photo, des engins qui sont faits pour être connectés à des téléphones qui peuvent servir de détonateurs. Un de ces engins a explosé, c'est vraisemblablement la cause de la blessure de cet homme.
On voit d'ailleurs l'un de ces engins.
Exactement. Immédiatement, l'enquête est reprise en main par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et le Parquet National Antiterroriste. Cet homme, il est de nationalité ukrainienne-russe, il a 26 ans, et depuis, il est en garde à vue, il est actuellement entendu par la DGSI.
Nicolas Tenzer nous a rejoint. Bienvenue à vous, professeur de géostratégie à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de Notre guerre aux éditions de l'Observatoire. Bienvenue sur ce plateau. Que vous inspirent ces premières informations? On n'en sait encore pas beaucoup. Mais voilà, un russophone venu du Donbass qui trafiquait des engins explosifs.
Bah, d'abord, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire que quand on a vu effectivement un certain nombre d'attentats qui ont déjà été commis au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, l'Allemagne, la Pologne notamment, compte tenu des avertissements évidemment des services spéciaux, il y a un risque et très élevé d'attentats dans l'ensemble des pays européens et évidemment encore plus dans les pays qui ont pris une position parfaitement claire, dure sur la Russie.
Donc un risque d'attentats russes.
Ah bien sûr, il y a des risques d'attentats russes sur le sol français et sur le sol d'ailleurs des autres pays, c'est pas uniquement la France, est évidemment particulièrement élevé. Évidemment, les moyens peuvent être très différents, les cibles peuvent être différentes, des dépôts de munitions. Rappelez-vous, même avant le début de la guerre totale, c'était déjà le début de la guerre russe d'agression contre l'Ukraine 2014, l'explosion du dépôt de Vreptice en République tchèque, qui avait fait 2 morts. C'était en 2014 déjà. Et après, d'ailleurs... la République tchèque a pris un certain nombre de mesures. Mais là, avec évidemment l'intensification du conflit, évidemment la Russie a tout intérêt, alors soit à saboter un certain nombre de dépôts de munitions, de dépôts logistiques qui servent à transférer ces munitions à l'Ukraine, soit tout simplement de commettre des attentats sur le sol de l'Europe en essayant de montrer que c'est une menace, parce que le but de Poutine, c'est toujours clair, on le voit d'ailleurs avec ses déclarations, on le voit avec l'ensemble de ses propos, des propos de ses lieutenants, c'est de faire peur à l'électorat, de dire effectivement, ce qui montre d'ailleurs le succès de l'entreprise d'offensive beaucoup plus nette des pays occidentaux aujourd'hui, surtout n'allez pas trop loin, parce que sinon vous risquez gros.
Il faut voir qu'il y a cette déstabilisation. Mais Poutine irait jusque-là, jusqu'à
écoutez,
poser une bombe en France quelque part.
Ça peut tout à fait être effectivement poser une bombe en France, poser une bombe aussi contre des intérêts français ou des troupes françaises dans d'autres pays où elles peuvent être stationnées. Ça peut être des attentats terroristes vraiment basiques, totalement, je dirais, aveugles dans n'importe quel, effectivement, sur n'importe quel événement, dans n'importe quel endroit. Tout ceci est évidemment possible. On a besoin de se préparer à cela parce qu'on a vraiment une guerre que Poutine a déclarée à l'Occident, ça de manière évidente, claire et parfaitement claire, parfaitement, je dirais, tangible. Il ne s'en est pas caché. Et donc, je pense que ce risque est très élevé. Bien sûr, lorsqu'il y a un événement majeur, évidemment, comme la célébration du 80e anniversaire du débarquement, c'est un moment particulièrement propice. Mais indépendamment de cela, ça peut parfaitement arriver. Vous savez, les incendies en Pologne qu'il y a eu récemment sont tout à fait révélateurs. Hein. Vous avez eu 9 personnes qui ont été d'ailleurs arrêtées par la police polonaise, les autorités polonaises. Le premier ministre Donald Tusk a clairement dit que, évidemment, la Russie semblait très fortement être derrière. D'ailleurs, la Russie peut recruter des gens, pas nécessairement d'ailleurs des Russes ou des pro-russes du Donbass. Ça peut être aussi n'importe quelle personne. Parce que dans un des premiers attentats d'ailleurs en Pologne, c'était un citoyen polonais et deux du Bélarus qui avaient été arrêtés.
Et d'ailleurs, aussi on voit que dans les opérations d'intimidation, les cercueils, les tags, etc., c'était des Bulgares, des Moldaves, etc. Anna Kabana.
Oui, c'est-à-dire qu'en face, en face de cette intimidation, c'est-à-dire que ce soit les mots belliqueux de Poutine au micro donc des journalistes français, ce qui en effet est quand même très signifiant, parce que c'est pas comme si il parlait souvent et à n'importe qui dans les parmi les journalistes Vladimir Poutine. Donc il y a ça, il y a les intimidations via les cercueils, les mains rouges, les étoiles de David bleu
et les panneaux près de l'ambassade de France
et les panneaux en effet. Et en face, qu'est-ce qu'on fait nous? Eh bien, en France, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Parlement. Ah non, mais la réaction nous fonce. Je trouve qu'il y a presque une ironie de l'histoire dans le fait qu'aujourd'hui, le Parlement a adopté définitivement cette loi, dite loi sur les ingérences étrangères, pour surveiller, hein, je cite, hein, les représentants d'intérêts étrangers en France et mieux sanctionner les ingérences. Alors, dans cette loi. C'est pas pour dire on est petit bras face à ces intimidations précisément et face à ces menaces. On fait quoi? On crée un registre national de l'influence, c'est-à-dire qu'une obligation pour les représentants d'intérêts étrangers qui font du lobbying en France de s'inscrire sur ce registre national avec des sanctions pénales pour les contrevenants. Deux, on étend à titre expérimental au cas d'ingérence étrangère une surveillance algorithmique qui est aujourd'hui réservée à l'antiterrorisme. Et trois, on a la possibilité de geler des avoirs financiers de personnes, d'entreprises ou d'entités qui se livrent à des activités d'ingérence.
Pardon, cette réponse,
mais
c'est, là,
c'est un peu petit quand même, non, franchement.
On comprend ce que vous dites, Anna, mais c'est la réponse.
Mais vous êtes même d'accord.
Attendez, c'est la réponse d'une démocratie.
Il n'ira pas jusque-là.
Face à des agissements qui sont commis par une dictature.
Mais bien entendu.
Qui n'a aucune limite dans ce qu'elle peut faire. On n'est pas en guerre contre la Russie. Ce serait le cas, il y aurait toutes sortes d'actions qui seraient menées, y compris clandestines. Mais là, c'est une réponse d'un État démocratique.
Bien sûr.
Adapté à un certain nombre d'ingérences, évidemment, pas des affaires comme celle de Roissy ou celle des cercueils de Saint-Denis.
Mais effectivement, pour reprendre les interrogations d'Anna Cabana, est-ce qu'on est prêt?
Oui, on n'a pas attendu cette loi pour débusquer des agents du KGB, du FSB, que ce soit le temps de l'Union soviétique ou de la Fédération de Russie sur le territoire national. La direction de la surveillance du territoire faisait cela depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc,
vous dites on est prêt face à ce qui est en train de se passer.
Je dis que
les
services de renseignement français, et singulièrement le renseignement intérieur, et singulièrement la DGSI qui est en charge de la contre-ingérence, n'a pas eu besoin d'un véhicule législatif pour rechercher des agents russes sur le territoire national et les expulser. Encore récemment, certains s'amusaient à recruter ou à essayer de recruter des ingénieurs français avec des petites annonces sur le bon coin en leur proposant des cours de russe. Bon, ils ont été repérés, ils ont été renvoyés de là d'où ils venaient, c'est-à-dire en Russie.
Donc, bon, là, en l'occurrence, on l'a trouvé simplement parce qu'il s'est fait exploser son propre engin.
Oui, mais on a très peu d'éléments sur cette affaire, très peu. On ne sait pas depuis combien de temps il était là. On ne sait pas ce que les services de renseignement savaient ou ne savaient pas. Par définition, c'est secret. On ne sait pas ce que des services partenaires ont pu dire. On n'en sait strictement rien. Enfin, tout cela est couvert, en plus, l'activité des services de renseignement par le secret de la défense nationale. On ne sait pas ça. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui s'est fait exploser lui-même. Bon, en tout cas, s'est brûlé grièvement. Mais on ne sait pas avec qui il était en lien, qui lui a demandé d'agir, qu'est-ce qu'il était prévu comme mode d'action, ni même quelles étaient les cibles. Moi, ce que je dis simplement, c'est que la DGSI, et il faut rendre hommage à son action, c'est débusquer des agents étrangers sur notre territoire national. Et la contre-ingérence, qu'elle soit russe, chinoise ou en provenance d'autres États, elle est en place depuis bien longtemps à la DGSI. On sait faire. Après, nul n'est infaillible. Les Britanniques sont très bons. Pour autant, en 2006, à coup de polonium, on est venu tuer un ressortissant russe sur leur sol et on a pu remonter les traces radioactives jusqu'à l'aéroport d'Israël. Et en 2018, bis repetita. Et les services russes sont revenus liquider un russe sur le territoire britannique. Donc, ils ne s'embarrassent pas des frontières. Après, on sait aussi entraver certaines de leurs actions, c'est simplement qu'on ne le dit pas, parce que tout cela est couvert par le secret.
Mais quelle serait la riposte potentielle si ça allait jusqu'à une bombe déposée ou un incendie causé, qu'on faisait le lien directement avec les autorités russes? Comment riposterait la France?
Alors, je pense qu'il y a deux questions. D'abord, effectivement, sur cette question-là, je dirais notre réponse, encore une fois, elle se joue et elle se fait directement en Ukraine d'abord. C'est d'abord en essayant, et ça il faut le faire, il faut aller jusqu'au bout, de défaire totalement la Russie en Ukraine, que finalement on gagnera la guerre et que l'on mettra fin au moins de manière très large, aux actions du régime russe en Europe et partout. C'est pour ça d'ailleurs que s'il est particulièrement difficile, particulièrement décisif, d'aller jusqu'au bout. Je pense que ça, c'est la première réponse. Après, il peut y avoir des actions ciblées. Ce n'est pas rare. Des expulsions de diplomates sont des choses qui se font, bien sûr. C'est tout à fait important. Maintenant, je pense qu'il faut distinguer quand même deux sujets différents. Il y a un sujet, effectivement, qui est la réponse, effectivement, qui relève de l'antiterrorisme, qui est évidemment totalement importante. Et puis, il y a la deuxième chose qui relève, là, pour le coup, à la fois de l'action des services, mais aussi des services fiscaux, mais aussi de Tracfin, mais aussi d'un certain nombre d'autres services, qui est l'action contre la désinformation et les ingérences qui sont commises par des personnalités françaises, qu'elles soient politiques, qu'elles soient journalistiques, qu'elles soient intellectuelles. Voilà. Et vous avez des degrés extrêmement larges. Alors, la loi à laquelle vous faisiez allusion, effectivement,
la loi contre l'ingérence étrangère,
je dirais, est faite pour cela. Est-ce qu'elle va assez loin ? Je pense que non. Et qu'il y a des alertes, pour le coup, il y a des alertes depuis très longtemps, et il y a un certain nombre de personnes dont on peut très fortement supposer qu'elles ont des liens constants, forts et établis avec la Russie.
Il y en a beaucoup, pardon, sur le territoire français.
Ah oui. Je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà. Je confirme ce que dit Jérôme et Paul, ça m'a assez d'accord.
À notre corps défendant, nous en côtoyons parfois souvent.
Attention à la frontière peut-être entre ingérence et influence. L'ingérence, c'est une action, donc ça ressort de l'illégalité. L'influence, ça peut être l'expression d'une opinion, parce qu'on se sent intellectuellement proche d'un peuple ou d'un tyran, et qu'on veut simplement répercuter en démocratie, dans la liberté d'expression, ce que l'on en pense. Je vais prendre un exemple concret. De quel côté mettez-vous Thierry Mariani ?
Alors, la question, je ne veux pas me pencher sur son cas en particulier. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu une forme de rémunération ?
C'est ça la différence.
Première question. Deuxièmement, est-ce que cette corruption est légale ou n'est pas légale ? Par exemple, pour un consultant, même ancien Premier ministre, même ancien ministre, qui, de fait, défend les intérêts, ou ancien parlementaire, ou parlementaire, c'est un peu différent, mais ancien parlementaire, j'ai bien
ou
ancien,
président de la République.
Ou ancien fonctionnaire, ou ancien président de la République, qui défend des intérêts russes en France, ce n'est pas a priori illégal, sauf s'il y a trafic d'influence. Et le trafic d'influence est extraordinairement difficile à prouver devant un tribunal. C'est le problème. Et aujourd'hui, vous dire faire du lobbying pour défendre les intérêts d'un État, quel qu'il soit, n'est pas illégal. Le vrai sujet, c'est précisément comment le rendre illégal. Parce qu'il n'est pas normal qu'un ancien élu, ancien ministre, ancien président, ancien premier ministre, ou ancien haut fonctionnaire civil ou militaire, travaille de manière rémunérée pour une puissance étrangère. Et je pense que ça, c'est une lacune de la loi que vous évoquiez effectivement tout à l'heure.
Quelle que soit la puissance, c'est valable pour la Suisse comme pour la Chine ou la Russie ?
Alors, je pense que là, effectivement, la question, c'est de voir comment est-ce qu'on établit le partage, effectivement. Mais à partir du moment où vous avez une puissance qui se comporte directement comme l'ennemi de la France, et c'est le cas de la Russie de manière manifeste, c'est vraisemblablement le cas d'une certaine manière de la Chine, de quelques autres États également, on ne va pas tous les énumérer. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse codifier ça dans un texte de nature législative.
Maxime Brandstetter, on le disait, il est en garde à vue, cet homme de 26 ans, originaire du Donbass, on a encore peu d'infos sur son profil. La DGSI est sur le coup, qu'est-ce qu'elle recherche maintenant précisément ?
Elle recherche à répondre à toutes les questions qu'on s'est posées au cours de ce plateau, c'est-à-dire pourquoi a-t-il fait ça ? Est-ce qu'il était commandité ? Si c'était le cas, par qui ? S'il l'a fait au nom d'une idéologie laquelle ? Et puis bien sûr, toute la suite logistique. Est-ce qu'il est arrivé en France récemment ? Quand est-ce qu'il est arrivé ? Comment est-ce qu'il est arrivé ? Est-ce qu'il avait des complices ? On le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est lui qui comptait déposer ses engins explosifs ou est-ce qu'il comptait approvisionner d'autres personnes ? Finalement, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de, cette personne, à la fois sur ce qu'il voulait, quels étaient ses objectifs, mais aussi beaucoup, et ça doit particulièrement intéresser la DGSI, sur la logistique qu'il y avait autour de lui.
Avec une guerre donc, et ça devient de plus en plus évident au fur et à mesure que les mois passent, qui ne se déroule pas simplement sur le front en Ukraine. On parle d'une guerre hybride où tous les moyens sont employés. On parle de cyberattaques, les Russes seraient aussi potentiellement derrière. Maintenant, on parle de ces attentats potentiels.
On peut avoir aussi des attaques sur des réseaux électriques, sur des systèmes d'assainissement d'eau, sur un certain nombre, je dirais, d'infrastructures critiques, comme on dit. C'est parfaitement possible.
Un carrefour de feux tricolores, vous faites passer les feux au vert quand ils doivent être rouges, vous tuez des gens. Enfin, je veux dire, une cyberattaque, ça peut tuer. C'est pas simplement quelque chose de virtuel dans le cyberespace. Vous déréglez des objets connectés dans un hôpital, vous pouvez faire des ravages. Donc la cyberattaque, c'est quelque chose qui peut conduire jusqu'à tuer. Les Russes sont coutumiers du fait quand ils commettent certaines cyberattaques. On arrive dans certains cas à les retracer. Enfin, il y a des bouts de code qui peuvent être parfois en russe. Alors ils vont évidemment nier tout ça, dire non, pas du tout, c'est un coup monté, on a mis du russe parce que ceci, parce que cela. Mais on arrive dans certains cas à savoir d'où elles viennent. Ce sont des volontés de déstabiliser, d'entraver, de gêner, dans un contexte en plus où ils vivent sans doute très mal, d'être exclus de toute une série d'événements. Bon, demain, si je m'en en a parlé, les Jeux Olympiques en a parlé, puis entre, il y a le plus grand salon de l'armement au monde, hein, Rosatory, qui démarre le 17 juin, qui finit le 21 juin. Là encore, ils n'y sont pas les bienvenus depuis 2022. Donc c'est la deuxième édition à laquelle on leur dit que, alors même qu'ils sont un des principaux marchands d'armes au monde, ils ont même été pendant très longtemps deuxième vendeur d'armes au monde, bon, ils ne sont pas les bienvenus sur le principal salon de vente d'armes. Donc est-ce qu'il faut faire un lien entre cette action entravée débusquer et toute cette série d'événements. Moi, je ne m'aventurerai peut-être pas tout de suite jusque-là. En tout cas, je laisserai volontiers le parquet national antiterroriste le faire. Mais en tout état de cause, il y a une concordance de temps qui interroge dans un contexte où on est monté en intensité, en gradation, dans la parole, où d'ailleurs, encore hier, Alexander Makhovov, il était là sur ce même plateau. Il disait, mais à la guerre comme à la guerre. Ça veut dire que tous les moyens d'action peuvent être mises en œuvre, y compris le recours au sabotage, voire dans certains cas à l'attentat ciblé.
Tiens, puisque vous parlez d'Alexander Makhovov, porte-parole de l'ambassade russe en France, il était effectivement sur le plateau de BFM TV hier soir, lui il dit qu'on est complètement parano, que la Russie n'est absolument pas derrière quoi que ce soit. On l'écoute, vous réagirez derrière.
Sérieusement, j'ai rien d'autre à répondre parce que c'est tellement ridicule. Tout ce ensemble d'accusations, il n'y a aucune preuve. Les étoiles de David, c'était les Moldaves derrière. Les empreintes rouges à la peinture, c'était les Bulgares. Oui. Pour les cercueils, c'est vraiment comme une anecdote. Là. C'était un Allemand, un Ukrainien, un Bulgare. Et vous voyez les Russes en... Vous voyez les Russes partout.
Mais non, mais pourquoi la Bulgarie en voudrait la
France ? Sans aucune preuve. Désigner coupable sur la base du fort probable, mais ça, franchement, c'est du nouveau dans la jurisprudence, voir les Russes partout. Mais vous voyez, franchement, vos concitoyens vont mal dormir à cause de cette paranoïa qui est cultivée par les médias français.
Ça vous fait sourire, Nicolas Tenzer ?
Oui, enfin, parce que le personnage est totalement effectivement ridicule s'il n'était pas effectivement complice d'un régime criminel. Parce que je veux dire, voir les Russes partout, quand vous avez un État qui a assassiné plus de 100 000 personnes, rien qu'en Ukraine, probablement plusieurs centaines d'autres milliers en Tchétchénie, en Syrie, en Géorgie, que l'ensemble de ces crimes de guerre contre l'humanité, de génocide et d'agression, quatre catégories de crimes imprescriptibles ont été connus et ont été complètement niés par ce jeune homme, effectivement, avec un sourire de gendre idéal. Effectivement, vous voyez, effectivement, vous avez une très belle face, vous avez un bel habit, mais vous avez quand même l'intérieur qui est celui du mal.
Venant des Russes qui sont les plus grands paranoïaques de la Terre, c'est quand même très fort de café.
C'est presque un compliment finalement de nous traiter de paranoïaques.
Est-ce qu'on paye, Nicolas Tenzer, une forme de naïveté vis-à-vis de la Russie ? Est-ce qu'on continue à la payer, cette naïveté, aujourd'hui ? Même si les mentalités ont totalement changé depuis deux ans vis-à-vis des Russes.
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que nous payons, effectivement, la naïveté. Je veux dire, je me rappelle quand il y a déjà plus de 15 ans, et encore plus depuis 2014, première guerre contre l'Ukraine, je dénonçais les actions criminelles, je disais qu'il fallait les arrêter tout de suite, je disais qu'il y avait vraiment un besoin vraiment d'agir. Effectivement, on était totalement, la plupart des gouvernements européens, américains d'ailleurs aussi, étaient dans le déni. Et les dénonciations de tous ceux qui alertaient, c'était effectivement, vous êtes des va-t-en-guerre, vous êtes des paranoïaques précisément, vous dites n'importe quoi. Et donc, pendant très longtemps, on n'a pas agi. Moi, je me rappellerai toujours quelqu'un qui était effectivement extrêmement proche de l'Élysée, qui à un moment disait, mais surtout il ne faut rien dire parce que ça risquerait de saboter la relation franco-russe. À l'époque où il y avait encore l'idée, alors du recette, rappelez-vous, côté américain, vous aviez les accords côté Allemagne avec évidemment les livraisons de gaz, et puis vous aviez l'idée d'Emmanuel Macron d'une architecture de sécurité et de confiance, c'était dans les termes. Et effectivement, le réveil a commencé en 2022. Il s'est poursuivi, il s'est accentué en 2023, alors côté français, avec le discours de Bratislava d'Emmanuel Macron du 31 mai, avec ce qu'il a dit depuis le 26 février sur la possibilité éventuellement d'envoyer des troupes en Ukraine, après il faudrait repréciser les missions, etc., avec un discours beaucoup plus ferme de l'ensemble des alliés sur la possibilité de frapper le sol russe et les avions russes, ça vient d'être confirmé par les Américains, sur le sol russe ou dans les, l'espace aérien russe, je crois qu'aujourd'hui, on a un peu quitté cette naïveté. Est-ce qu'on est allé complètement jusqu'au bout? Est-ce qu'on est vraiment dans une stratégie parfaitement claire? Je reviens d'Ukraine, je suis rentré hier soir. Je veux dire, les Ukrainiens eux-mêmes et les alliés d'ailleurs qu'on peut rencontrer, avec qui on peut discuter, se posent de plus en plus sérieusement la question malgré tout. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas, malheureusement, heureusement d'ailleurs, au stade, je dirais,
d'après.
Mais c'est vrai que notamment sur les ingérences ou les actions d'influence russe et les propagandistes russes, je pense qu'on aurait dû, on était quelques-uns à le dire dès 2015-2016, nous aurions dû agir beaucoup plus tôt, beaucoup plus en amont, et prendre déjà les mesures, parce que c'était parfaitement évident, tout était parfaitement calculé et évident dès ce moment-là.
On n'a pas été assez paranoïaque, finalement.
On n'a pas été, exactement, c'est une très bonne formule.
Maxime Brandstetter, on refait le point sur ce qui s'est passé donc, ce lundi, cette semaine, avec des développements, puisque le parquet national antiterroriste et la DGSI ont été saisis, un russophone interpellé à Roissy.
Un russophone de nationalité ukrainienne et russe qui a été interpellé dans un hôtel, alors qu'il avait un atelier visiblement de fabrication d'engins explosifs. Il en avait plusieurs et il y en a un, alors amateur ou pas, l'enquête devra le confirmer, mais visiblement il y a un engin qui lui a explosé au visage, qui l'a brûlé gravement au bras et au visage. Il a été transporté à l'hôpital et il est depuis entendu par la DGSI. Vous voyez sur votre écran l'un de ces dispositifs qui a été une photo qui a été trouvé par mon collègue Mathias Tesson. L'un de ces dispositifs, vous voyez, le câble, c'est fait pour le relier à un dispositif qui permet de l'activer, que le détonateur soit un téléphone portable. Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce qu'il ciblait? Est-ce qu'il voulait faire des actions de sabotage contre certains endroits? Est-ce qu'il ciblait des personnes? Et surtout, au nom de qui ou de quelle idéologie voulait-il agir?
Donc, il est en garde à vue.
Il est en garde à vue, entendu actuellement par la Direction générale de la sécurité intérieure. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête, notamment pour association de malfaiteurs terroristes. Lors des perquisitions, on a retrouvé plusieurs passeports qui sont en cours d'analyse pour savoir s'ils sont vrais ou faux, ainsi que différents composants qui sont aussi en cours d'analyse pour essayer de déterminer l'exactitude de ces composants et surtout, où les a-t-il achetés? Comment se s'est-il procuré? Et qu'est-ce qu'il voulait en faire?
Beaucoup de points d'interrogation auxquels il faudra encore répondre. Merci beaucoup à tous pour ces éclairages sur cette affaire.